Dans les lectures du jour, il est beaucoup question d'esprit, si je puis dire. D'abord d'Esprit Saint, dans les Actes des Apôtres, et puis dans l'Évangile, l'Esprit du monde et l'Esprit de Jésus. Même si dans l'Évangile, il n'y a pas le mot « esprit ». Alors, d'un point de vue vraiment pédagogique, la première lecture nous montre quelque chose de très étonnant. Il y a plusieurs contradictions. Tout d'abord, Paul dit, enfin, Luc, puisque Luc c'est l'auteur des Actes des Apôtres, raconte que Paul a fait circoncire quelqu'un parce que son père était grec. Et deux lignes après, on nous dit qu'il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Parmi ces décisions, il n'y a pas l'imposition de la circoncision. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que Paul ne fait pas ce qui a été décidé, qu'il est dissident. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Pourquoi est-ce que cela nous a été transmis dans les Écritures saintes, inspiré par le Saint-Esprit? Une explication pourrait être de dire que Paul rejoint les croyants là où ils en sont. Et pour eux, à ce moment-là, c'est pas audible de se convertir au Christ sans passer par la circoncision. Et donc, il applique cela. Puis dans un deuxième temps, il dit, bon, écoutez, je l'ai fait parce que pour vous, c'était important. Mais voilà ce que les apôtres ont décidé. On pourrait dire, il aurait peut-être pu faire les choses dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça nous enseigne, en fait, ça? Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Je prétends absolument pas avoir la réponse. Ça peut nous enseigner que on rejoint les gens là où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'on approuve les péchés, ça ne veut pas dire qu'on encourage la débauche, ce qui n'est pas le cas ici. C'est simplement que dans leur démarche de foi, ils n'ont pas encore compris que la loi n'était pas nécessaire. Bon, en tout cas, c'est une interprétation que je donne, et je trouve ça assez intéressant parce que ça montre cette attention à la personne. Dans l'Évangile, Jésus n'a pas demandé à Pierre qu'il venait de rencontrer la même chose qu'il lui demande en Jean 21, « Pierre, m'aimes-tu, sois le berger de mon troupeau ?» Jésus reçoit Pierre là où il en est, il le forme, et à la fin, il l'invite à répondre de lui-même. C'est pas du relativisme, hein, il faut être bien d'accord. Les pharisiens n'étaient pas d'accord avec ça. Pharisiens, ils trouvaient que tu prends tout et si tu coches pas toutes les cases, t'es damné. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis. On retrouve ça encore parmi des membres de l'Église aujourd'hui et peut-être nous-mêmes, nous sommes comme ça. Il y a les gens qui sont fréquentables et les gens qui ne sont pas fréquentables, ou pire, qui ne sont plus fréquentables parce que, parce que leur mariage a craqué. Et donc, c'est irrémédiable. C'est, voilà. Alors qu'en fait, c'est toujours des enfants de Dieu, ce sont toujours des personnes membres de l'Église, ce sont des gens qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont traversé quelque chose de violent, de dur, une grosse déception sur l'autre ou sur eux-mêmes, que sais-je. Vous voyez, donc, ça ne légitime pas des actes qui seraient, encore une fois, hein, qui ne seraient pas conformes à ce que le Christ nous demande, mais en revanche, les personnes, elles, sont aimées de Dieu. Et si nous refusons d'aimer des personnes aimées de Dieu, nous sommes en guerre contre Dieu. Donc, il faut bien réfléchir. Et alors, ensuite, on assiste à quelque chose d'assez singulier, de très intéressant, c'est-à-dire deux fois la mention du Saint-Esprit qui s'oppose et qui empêche. Alors évidemment, on aurait aimé dire à Paul, qu'est-ce qui t'a fait penser que ça venait du Saint-Esprit ? Vous voyez ? Parce que là, il y a tout un discernement à faire pour se dire, voilà, j'ai compris intérieurement que ça passerait pas, quoi. Que c'était pas une bonne idée, que c'était pas le moment. Et parfois, c'est difficile. Le problème de la volonté, en fait, c'est de lâcher sa volonté. C'est de vouloir quelque chose que Dieu ne veut peut-être pas. Et donc, il y a un besoin d'une grande humilité. Et précisément, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que les personnes peuvent entendre ? Peut-être qu'elles ne peuvent pas encore entendre quelque chose. Il ne faut pas empiéter sur le temps, sur l'action de Dieu. Dieu prépare des gens à entendre quelque chose. Mais si l'on va trop vite, on peut tout casser. Donc j'imagine que c'est un peu ça, vous voyez. Ça revient quand même deux fois. Deux fois de suite, quoi. L'Esprit Saint s'y opposa. Donc ils ont dû faire l'expérience que non pas les hommes s'y étaient opposés, mais que la manière dont ça se faisait... je vais prendre un exemple. Vous devez rencontrer quelqu'un et vous ne trouvez pas moyen de prendre rendez-vous, quoi. Parce qu'à chaque fois, ah ben non, cette semaine-là, je ne peux pas. Et puis, ah oui, l'autre, je peux. Ah ben oui, mais c'est moi qui ne peux pas. Et puis la troisième, je ne peux pas. Et puis la soit un. Et puis la quatrième, il y a je ne sais pas quoi. La cinquième, c'est la réunion de classe des enfants. Bon, bref. Et on peut se dire, ouais, c'est quand même un peu fort, quoi. C'est quelqu'un que je souhaite vraiment rencontrer et ce n'est pas possible avant 5 mois. Oui, ben, peut-être qu'il faut ces 5 mois parce que tu ne sais pas ce qui va se passer entre-temps. Mais peut-être que la personne a besoin d'être mieux disposée, que toi, tu as besoin d'être mieux disposé. Donc, toujours garder cette... quand les choses résistent, se dire, ah, ça résiste pourquoi ? Ça peut être très différent, hein. Ça peut être résoudre un problème informatique et puis vous butez dessus pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis vous dites, tiens, c'est marrant, je suis en train d'essayer de le résoudre tout seul et j'ai pas du tout pensé à mettre Dieu dans l'affaire, le Saint-Esprit dans l'affaire, humblement d'écouter l'Esprit-Saint. Et ça vient quand on n'a pas l'habitude, ça vient quand on appelle l'Esprit-Saint que quand il y a des ennuis. Alors qu'en fait, l'Esprit Saint, il est là H24. Et il n'est pas là que pour les ennuis. Il est aussi pour la prière, pour l'action de grâce, pour ce qu'on va faire, pour la gratitude, pour l'attention, pour la délicatesse, pour la relation avec les autres, etc. etc., etc. L'Esprit des communications, l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, ça communique pas mal. Mais l'Esprit Saint, on le laisse un peu de côté. Donc, vous voyez, cette idée de se dire toujours qu'est-ce que ça veut dire. Bon. Donc... ensuite, on arrive vers la finale. Dans la finale, on a donc l'idée de déduire ou de conclure. Donc, vous voyez, le blocage sur une intention qu'on a, qui est bonne, apporte une information. Et parfois, il faut du temps pour la comprendre. Donc, on peut d'abord se dire, je m'y suis mal pris. On recommence. Ah, ça bloque encore. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être on attend un peu. Prenez la procédure d'élection du pape. Il est prévu qu'il y ait d'abord des congrégations pour que les cardinaux s'entendent mutuellement parler de la manière dont ils voient le monde. Puis, au bout d'un moment, ils ont une prédication. Ils rentrent en conclave, ils ont une prédication. Et puis, ils commencent à voter un tour. Le premier tour, ça part dans tous les sens, c'est toujours comme ça. C'est une manière de montrer son estime à l'un ou l'autre. J'allais dire, c'est pas forcément super charismatique, quoi. Et puis ensuite, ça commence à devenir beaucoup plus sérieux. Et si ça n'a pas marché, on fait une pause et on prie. Vous voyez, on donne le temps, on se dit, tiens, on n'arrive pas à trouver, il y a quelque chose qui n'est pas clair, on n'a pas vu quelque chose, on n'a pas entendu quelque chose. Donc on laisse la place, un peu plus encore, de nouveau, j'allais dire, au Saint-Esprit, à l'inspiration, à la prière. Voilà, ben là c'est la même chose, vous voyez, il y a deux oppositions, tiens c'est curieux, on va attendre un peu, puis tout à coup, Paul a une vision, et il se dit, ben, c'est ça. C'est ça, voilà pourquoi le Saint-Esprit ne voulait pas qu'on aille à droite et à gauche. C'est que c'est plus important qu'on aille à cet endroit-là. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important de cultiver cette liberté dans l'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas je fais ce que je veux, c'est le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Et je vais essayer de me dire, ça bloque, attention, il y a peut-être un message. Soit je m'y suis mal pris, donc je recommence. Soit c'est plus subtil que ça. Mais les deux viennent du Saint-Esprit. Et alors dans l'Évangile, alors on a deux esprits, là aussi l'esprit du monde. Il y a deux fois le mot « haine », vous remarquerez. Donc vraiment, l'esprit du monde, en fait, c'est difficile de se dire « mais c'est quoi l'esprit du monde, en fait ?» Parce que ben, nous, on vient tous du monde, hein. Quand il y a des vocations, elles viennent du monde, donc elles viennent de l'esprit du monde, c'est quoi? Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué du coup. On se dit, mais c'est quoi l'esprit du monde? On en fait partie bon. Et en fait, nous avons la réponse tout à la fin. Je vais y venir. J'y viendrai donc à la fin. Jésus dit, vous n'appartenez pas au monde, donc il y a une information là, il y a quelque chose qui fait qu'avec le monde, ça ne peut pas marcher. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors nous savons que Jésus nous a choisis et qu'en nous choisissant, il nous enlève de la logique du monde. Donc évidemment, il faut que nous y répondions. Si nous restons dans la logique mondaine, c'est-à-dire la logique du monde, nous ne répondons pas au choix de Dieu. Ce qui est très dangereux. Vous savez, c'est un peu ce qu'on appelle en droit l'éthique procédurale. Le dimanche, je suis catho, la semaine, je suis païen. Ouais. T'as du moron à te faire. Hein. Parce que l'éternité, ça dure longtemps. Et c'est tous les jours. Voilà, comment est-ce que je deviens chrétien tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes? C'est une vraie réalité, ça, hein, parce que c'est ce qui est écrit dans l'Évangile. Et donc, puis Jésus en rajoute une couche en disant, vous savez, moi je me suis fait mettre à la porte, alors vous, c'est probable que ce ne soit pas mieux, quoi. Voilà, donc Jésus nous prévient que ça ne va pas être simple, parce que l'esprit du monde ne s'oriente pas dans la même direction que nous. Ça peut aller jusqu'à des persécutions. Alors, on arrive quand même à la finale, qui est quand même géniale. Donc, ils vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Le motif de la persécution, c'est l'ignorance. C'est ce qui est écrit là. Qu'est-ce qui a envoyé Jésus? Le Père. Donc, on peut dire que tout ce qui ignore ou combat Dieu en tant que Père, est prêt à persécuter. Donc toute religion qui nie, du verbe nier, la paternité de Dieu, est opposée forcément aux disciples du Christ. Donc je dis bien nier, hein, mais il peut y avoir aussi ne pas connaître. Le bouddhisme, qui n'est pas une religion mais une philosophie néanmoins, qui est une manière de vivre, ne connaît pas cette paternité. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont vouloir massacrer les chrétiens. Mais c'est vrai que c'est un peu une préparation. Bon, la doctrine islamique qui nie totalement la paternité de Dieu, autant que la filiation et le Saint-Esprit, il y a un Dieu, il n'est pas père. Il est Dieu. C'est pas trop... bon. Eh bien évidemment, appeler Dieu père, c'est une hérésie, quoi. Donc persécution. C'est en fait, vous voyez, c'est une ignorance. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il faut le proclamer. Vous allez me dire, ça va peut-être pas changer grand-chose jusqu'au jour où vous avez beaucoup, par exemple, chez les musulmans, vous en avez beaucoup qui se convertissent le jour où ils font cette expérience de la paternité de Dieu qui est pas du tout coranique, quoi. Donc voyez, voilà, nous sommes appelés ainsi à confesser un Dieu père. C'est ce que Jésus nous demande. Et ça produira des persécutions, mais pas seulement. Vous voyez, là, on est dans les persécutions. Ça produit aussi une joie très grande. Souvenez-vous des passages des actes des apôtres des jours passés. Voilà. Donc, pour pouvoir proclamer la paternité de Dieu, il faut en faire l'expérience. Il faut savoir que Dieu est notre Père, que la Trinité vit en nous, que le Père est donc aussi en nous, de par notre baptême, et qu'il faut s'adresser à lui, savoir que nous sommes habités par la Trinité. Nous le savons, encore une fois, hein, baptême, très bien. Mais est-ce que nous en vivons, est-ce que nous en servons, ou est-ce que nous bâillonnons le Père, le Fils et le Saint-Esprit quand ça nous arrange? Ou est-ce que nous prenons l'habitude d'écouter dans le silence, dans les rencontres, dans les oppositions, dans les enthousiasmes, dans la gratitude, dans les persécutions, quelque chose. Voilà, c'est une vraie question. Ça nous encourage à connaître le Père, et nous pouvons aussi nous persécuter entre nous, parce que nous ne connaissons pas vraiment la paternité de Dieu. Entre chrétiens et même entre catholiques, hein, ça peut arriver, quoi. On n'a pas compris que si j'aime mon frère, c'est pas parce qu'il est aimable, c'est parce que mon père l'aime et le trouve et l'a adopté comme fils et fille. Donc je l'aime comme je peux, ok. Mais voilà. Voilà, confessons un Dieu père.